C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 134 du 16 mars 2026. Au sommaire, le VIH au Québec, nous n'allons pas dans la bonne direction. C'est ce qu'indiquent les données de 2023 avec une hausse de 21 % des cas. Bibé Kalalu, réfugié gay en Ouganda depuis plus de 20 ans, raconte son exil et son combat incessant pour aider les personnes exilées de la diversité sexuelle. Le chercheur Laurent Francis Ngoumou décrypte les obstacles systémiques rencontrés par les demandeurs d'asile queer au Canada. Et nous terminons sur une note de lumière avec la talentueuse comédienne Cynthia Woumaheu, une grande alliée des communautés de la diversité sexuelle et de genre.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Actualité.
Les plus récentes données sur l'incidence du VIH viennent de paraître en début d'année pour le Québec. Et on parle des données de 2023 qui paraissent en 2026. On n'a toujours pas celles de 2024. Et si on se fie aussi à celles pour le Canada et à l'échelle mondiale, nous n'allons pas dans la bonne direction. Pour bien comprendre ce que les chiffres révèlent, nous recevons Tanguy Edrich, qui est coordonnateur de la recherche communautaire à la COXIDA. Bienvenue à l'émission, Tanguy.
Bonjour, Denis Martin. Merci
Alors,
de m'inviter.
Oui, commençons par le portrait local. Au Québec, on a observé, donc, je le dis bien, en 2023, un total de 1110 cas d'infection enregistrés. Ce qui représente une hausse de 21 %, c'est quand même beaucoup par rapport à 2022. Il n'y a pas de données encore pour 2024. À l'échelle nationale, le Canada en 2023 rapportait, lui, une hausse d'à peu près 35 % des cas, mais depuis, en 2024, ça a diminué de 3,3 %. Alors, comment on explique tout ça?
Oui, mais c'est une longue question. Je pense que ce qui peut s'expliquer aussi, c'est qu'il y a eu une chute du nombre de dépistages pendant la pandémie, donc 2021-2022. Je pense qu'on voit ça, c'est pour ça qu'il y a une augmentation.
Une chute des cas parce qu'il y avait moins de dépistages,
peut-être? Moins de dépistages, oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a eu des dépistages.
On rattrape
un peu. Et donc, la stagnation qu'on voit après, je pense que ça s'explique par là. Je pense qu'on a rattrapé en 2023, puis en 2024, on commence à stagner un petit peu.
On devrait avoir moins de nouveaux cas au Québec en 2024, mais on n'a toujours pas les chiffres. Là, je ne pose pas la question aux chercheurs, mais c'est quand même surprenant que ça prenne autant de temps au Québec à avoir ces chiffres-là, alors que même dans des petits pays du monde, moins de ressources qu'ici, on les sort, les données, au moins un an après. Mais bon, on n'ira pas plus loin.
Oui, je ne peux pas m'exprimer là-dessus.
Bon, dans les données québécoises, on remarque que les 65 % des nouveaux diagnostics concernent des personnes arrivées au Canada depuis moins de 5 ans. C'est avec un délai médian entre l'arrivée et le diagnostic d'à peu près un mois et demi. Comment on peut expliquer ça?
Oui, en fait, je pense que ça peut s'expliquer assez simplement. Il y a eu beaucoup aussi d'immigrants en 2023. J'ai regardé Statistique Québec, c'est, je pense, 150 000 immigrants qui sont arrivés cette année-là. Et pour la plupart de ces personnes-là, il y a un test de VIH à leur arrivée au Canada. Donc, c'est ça les chiffres que l'on voit. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes avec un délai médian très, très court entre leur arrivée puis le diagnostic.
Bon, maintenant, on ne va pas rentrer dans le discours prévalent présentement, qui est très anti-immigration, mais comment on peut parler de cette hausse, comment on peut la contrer, cette hausse, sans tomber donc dans ce discours?
Oui, il y a plusieurs choses à voir. On ne sait pas aussi si c'est des personnes... Il y a un test, évidemment, à leur arrivée, mais on ne sait pas aussi s'il peut y avoir aussi de l'infection après leur arrivée sur le sol canadien. Il y a une étude en Europe où il y a eu 30 % des cas des personnes migrantes qui ont été nouvellement diagnostiquées, qui ont eu leur infection post-migration. Il y a une étude au Québec qui est en train de se faire justement pour avoir ces chiffres-là, parce que les données de l'INSPQ ne nous le disent pas pour le moment.
Il y a quand même, je me permets de parler, quand même ce qu'on peut dire relativement une bonne nouvelle, c'est que les cas d'infection chez la population qui était la plus ciblée, qui étaient les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, ça baisse.
Oui, ça baisse, notamment chez les hommes, c'est ça, qui sont nés au Canada, c'est les données de l'INSPQ, il y a une baisse parmi les hommes ayant des rapports asexuels avec des hommes, en effet.
Bon, là, on semble dire que c'est peut-être juste un blimp, on va espérer, dans les statistiques, mais on sait que le Québec, comme beaucoup d'autres endroits dans le monde, ont signé, ou du moins se sont inscrites dans ce fameux, les objectifs de l'ONU-SIDA. C'est-à-dire qu'on voudrait que 95% des personnes qui ont le VIH connaissent leur statut, 95% de ceux-là ou celles-là sont sous traitement et 95% sont indétectables, c'est-à-dire qu'elles sont intransmissibles, indétectables. Il y a pas, on fait une prise de sang, puis on ne trouve pas assez de copies de virus pour que ça soit dangereux. Ça, c'était en 2022. On était à 89, 82, 96. J'ai l'impression qu'on va rater la cible.
Ben, j'ai l'impression aussi, Denis Martin, je partage ton inquiétude, surtout qu'en 2020, on était à 90, 85, 96. Donc, on chute légèrement par rapport à ces objectifs-là de l'ONU-SIDA.
Ça s'explique comment? Excuse-moi, on va retourner, mais ça s'explique comment qu'on a chuté?
Ben, je ne sais pas, ça c'est difficile à voir. Donc, le premier pilier, c'est vraiment le dépistage. On voit qu'il y a moins de personnes qui connaissent leur statut. Donc, je pense qu'il y a besoin d'améliorer le dépistage. Ouais. C'est quelque chose à prendre en compte. Je pense qu'il y a un problème d'accès encore au dépistage. Les gens ne sont pas encore assez sensibilisés, je pense. Et le deuxième, où le bas blesse, on est à 82%, comme tu l'as dit, c'est ceux qui connaissent leur statut, mais qui n'ont pas accès au traitement. Donc, je pense qu'il y a vraiment une barrière au niveau de l'accès au traitement qui existe encore. Cette barrière-là, ça peut être expliqué par le coût. Donc, les personnes qui ont un bas revenu peut-être vont avoir peur d'aller voir leur médecin pour demander des traitements. Ça peut aussi, pour les personnes migrantes qui n'ont pas accès à la RAMQ, ça peut être vraiment une barrière. Ils n'ont pas accès justement au traitement. Puis peut-être un problème d'inclusion, les personnes qui se sentent pas à l'aise d'aller voir leur médecin, d'aller voir une clinique, un hôpital, parce qu'ils se sentent exclus. C'est peut-être aussi une des raisons du problème d'accès au traitement.
Je vais me permettre un commentaire pour aider les gens à comprendre. Moi, je prends des médicaments antirétroviraux. Ça me coûte à peu près, je pense que c'est 1400 quelques, mais en début d'année, je dois payer, on paye la fameuse franchise. Je suis capable de payer les 200 quelques dollars qu'on me demande pendant 3, 4 ou 5 mois. Mais les gens là qui ont pas, c'est quand même beaucoup d'argent pour quelqu'un.
Oui, c'est quand même quelque chose à apporter tout de suite. Donc oui, c'est quelque chose qui peut vraiment être un frein.
Wow. Si on compare, on se console. Hein, si on regarde au niveau mondial, l'ONU-SIDA rapporte qu'en 2024, on va parler des chiffres de 2024 parce que ce sont leurs plus récents, il y avait 40 800 000 personnes vivant avec le VIH et que 1,3 million de personnes ont été nouvellement infectées cette même année. Ça va mieux ou ça va moins bien et pourquoi?
Alors, on aurait pu penser que ça allait mieux parce qu'il y a des nouveaux traitements, il y a des nouvelles méthodes de prévention qui sont sorties, qui ont l'air exceptionnelles. Mais malheureusement, le nerf de la guerre, c'est l'argent, puis l'argent manque. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de pays, dont les États-Unis, mais aussi le Canada, les pays européens, qui ont réduit leur contribution au Fonds mondial contre la lutte contre le VIH. Et à cause de ça, il y a moins de traitements, moins d'outils de prévention qui sont distribués sur le terrain.
Et ça cause beaucoup de problèmes. Puis je pense que je vais faire une autre parenthèse. Il y a l'accès à un des médicaments qui fonctionne très bien, ce qu'on appelle la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. C'est un traitement qu'on prend avant d'avoir une relation sexuelle et qui réduit grandement, presque à zéro, les risques d'infection. Or, ce médicament-là, il n'est pas gratuit.
Non, il n'est pas gratuit. Il n'est pas gratuit au Québec. C'est quelque chose qu'on essaye de se battre pour qu'il soit gratuit parce que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Mais pour le moment, ça coûte une centaine de dollars par mois pour avoir accès à ces traitements.
Et puis il y a même présentement la Floride aux États-Unis qui nous annonce qu'il n'y aura plus de financement pour ces traitements-là. Alors même le Biktarvy serait plus financé là-bas. Ah, puis ça, c'est juste au sud de la frontière, hein, ça va pas bien. Tanguy, pour améliorer la situation, là, redresser la barre, puis atteindre ces objectifs de l'ONU-SIDA, s'il n'est pas trop tard, qu'est-ce qu'on devrait changer concrètement?
Comme je disais, je pense qu'il faut un meilleur accès au dépistage. Je pense qu'une façon de le faire, c'est de laisser les intervenants communautaires faire le dépistage. Pour l'instant, c'est vraiment un débat qu'on a. C'est réservé aux professionnels de santé. Nous, on voudrait que aux communautaires, on puisse donner du dépistage. Il faut une meilleure information, une meilleure sensibilisation sur le dépistage. Il y a des gens qui ne se sentent pas concernés pour se faire dépister. Je pense qu'il faut qu'il y ait un message un peu global là-dessus. Multiplier les options de dépistage, ça peut être aussi intéressant. Il y a des autotests VIH qui existent, mais ils coûtent très cher. Donc, peut-être essayer d'améliorer l'accès à ces autotests-là, ça peut être intéressant. Et comme je disais aussi, pour freiner cette barrière à l'accès aux soins, essayer de réduire la stigmatisation. Donc, évidemment, il faut en parler. Il faut des campagnes nationales. Ça, c'est toujours vraiment intéressant. Et on parle de coûts, réduire le coût de la PrEP, réduire le coût du traitement, c'est aussi quelque chose d'assez primordial.
Est-ce qu'on peut ajouter aussi le fait qu'au Canada, ne pas divulguer son statut sérologique quand on est intransmissible, et c'est toujours encore un crime. Bon, c'est pas toujours appliqué, mais c'est toujours encore un crime, donc ça contribue à la stigmatisation.
Oui, je pense que toute la criminalisation autour du VIH, ça nuit vraiment à ce que les gens se fassent dépister, parce que si on le sait pas, c'est bon, on va pas le transmettre. Donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Je pense pas que la répression criminelle, ça soit la solution là-dessus. Réduire la criminalisation, ça doit, le côté pénal là-dessus, ça doit être aussi une priorité.
Puis c'est beaucoup pour ça que j'ai invité quelqu'un de la COXIDA aujourd'hui, parce que c'est vraiment important. Quel rôle la recherche communautaire peut-elle jouer pour influencer les politiques publiques?
Mais je pense que la recherche communautaire, c'est une recherche par et pour les personnes concernées. Donc, soit les personnes vivant avec le VIH, soit les populations clés. Donc, on pense aux travailleuses du sexe, aux personnes utilisant des drogues, mais aussi aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Je pense qu'il faut comprendre un peu ce que vivent ces populations-là, quelles sont les sources de stigmatisation, par exemple, quelles sont les barrières aux soins, quelles sont les barrières aux traitements qu'ils peuvent rencontrer ces personnes-là pour essayer de régler ces solutions-là. Mon but aussi, c'est de créer aussi des pistes d'intervention pour les organismes communautaires. Est-ce que les populations ont besoin de logement, de nourriture, ce genre de choses?
Donc, c'est un problème de santé, c'est global, c'est holistique.
C'est ça.
Et souvent, les d'autres entrants sont importants à considérer.
Si on a des problèmes pour se loger ou pour se nourrir, prendre des traitements ou penser à la prévention, c'est la dernière des choses auxquelles on pense.
Tout à fait. On peut-tu parler des autres ITSS, parce que ça aussi, c'est dans le rapport, et qu'est-ce qu'on constate?
Ce qu'on constate, c'est une hausse des cas de gonorrhée, de syphilis, notamment chez les femmes et notamment chez les personnes hétéros. Donc, il y a un changement aussi de visage parmi ces personnes-là. C'est plus réservé ou c'est plus en majorité les personnes, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, mais aussi les personnes hétéros. Je pense que il faut aussi dédiaboliser un peu toutes ces ITSS. Ces ITS-là, ce sont des infections qui peuvent se traiter très, très bien et très rapidement avec des traitements qui fonctionnent bien. Donc, en fait, d'en parler, je pense que ça pourrait juste contribuer à réduire la transmission.
Oui, il y a juste un peu la gonorrhée qui commence à faire peur parce qu'il y a des gonorrhées multirésistantes, c'est pas si grave là, pour le moment. J'oubliais quand même, il y a un point important, on a toujours parlé du VIH comme une maladie qui concerne les hommes, mais on se rend compte maintenant que dans l'hémisphère sud, c'est surtout les femmes.
Oui, il y a 53%, je pense, au total des personnes vivant avec le VIH qui sont des femmes. Dans l'hémisphère sud, c'est principalement des femmes. C'est vrai que dans les pays les plus développés, c'est plutôt des hommes. Mais oui, et ce qu'on voit aussi, c'est une augmentation du nombre de femmes en proportion de femmes ici qui vivent avec le VIH.
Et ça c'est parce que souvent, les traitements sont faits en fonction des hommes et pas toujours en fonction des femmes. Il y a beaucoup de travail à faire, là.
Oui, sur les effets secondaires, on ne sait pas trop pour les femmes, il y a beaucoup de choses. Ou les femmes qui sont enceintes, est-ce que ça, c'est possible ou pas? C'est difficile.
Tanguy Edrich, j'espère que je pense bien ton nom.
Oui, c'est bon.
Coordonnateur de la recherche communautaire à la COXIDA. Merci beaucoup de
nous avoir
éclairé là-dessus. Merci.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue.
Originaire de la République démocratique du Congo, Bibi Kalalou a vu son destin basculer lorsqu'il a été évincé de son rôle de chef coutumier en raison de son orientation sexuelle. Réfugié en Ouganda depuis plus de deux décennies, il a fondé Angels Refugee Support Foundation pour briser l'isolement des personnes exilées de la diversité sexuelle. Nous recevons aujourd'hui donc un leader qui, malgré les menaces et la précarité, refuse de se taire. Bibi, qu'on rejoint donc en Ouganda via la vidéoconférence. Bienvenue à l'émission, Bibi.
Oui, bonjour.
On est très content que tu sois là. Alors, Bibi, ton histoire commence par une chute brutale depuis un statut de grand respect, celui de chef coutumier. Tu étais destiné à diriger un territoire de 800 km² au sud de Kivu, un héritage de ton père. D'abord, c'est quoi un chef coutumier, pour qu'on se comprenne là?
Bonjour Martin, bon, je m'appelle Bibé Kalalou.
Oui.
Je suis originaire de Sud-Kivu. Ma village natal, c'est. Ma tribu, c'est Barega.
Barega.
Yes, you know, vous connaissez que dans le territoire du Sud-Kivu,
Ouais.
il y a 32 tribus.
Ça fait du monde,
Alors,
ça.
à ces 32, oui, 32 tribus. Alors, moi, notre tribu, c'est Barega.
Les gars.
Nous sommes situés au sud du Kivu.
Oui.
Après, ouais. Donc, nous sommes voisins avec les tribus de Bashi et les tribus de Babembe.
Je vais
Donc,
devoir
nous
te
sommes.
demander, bébé, d'aller plus vite sur c'est quoi un chef coutumier, parce qu'on a beaucoup de terrain à franchir, toi et moi.
Alors que moi, personnellement, moi,
Oui.
je suis héritage de mon père, parce qu'à chaque tribu, il y a des chefs coutumiers.
Ouais.
Alors, je suis héritage de mon père parce que je suis l'aîné de la famille.
D'accord.
Alors, tellement que l'autre tribu a constaté que moi, je suis gay.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parvenu à m'arrêter et me tuer parce que dans notre coutume, dans notre culture, on ne peut pas accepter un chef coutumier gay. Alors, comment est-ce que je fuis?
On a tenté donc
Je
de te
fuis parce que.
tuer, là. C'est sérieux ce que tu dis. Ça, en
Oui,
2000, en
oui, oui,
2003, on a
oui, oui,
tenté de
oui,
te
oui.
tuer. C'était
Oui,
4000 personnes,
oui,
hein, qui sont parties à
oui, oui. C'était
ta.
4 000 personnes,
Ouais.
oui, c'était 4 000 personnes parce qu'on a fait l'ensemble, vraiment, ça a été vraiment catastrophe. Alors moi, je ne serais pas capable de me sauver dans cette situation. C'est parce que j'avais beaucoup de connaissances, bon, j'ai fait du bien à quelques personnes. Alors quelques personnes m'ont protégé et là où j'ai pris fuite de quitter mon village pour partir en ville. Ah, donc, en ville de Bukavu, je n'aurai pas moyen de rester là-bas parce que nous sommes toujours dans une même raison.
Oui, parce
Alors, c'est pour
que
cela que j'ai quitté.
oui,
Oh,
j'ouvre la
ouais.
parenthèse. Au Congo, être gay, ce n'est pas. C'est quand même, il y a des lois contre ça aussi au Congo, là où tu vis, là.
Oui,
Où tu vivais, pardon.
il y a,
Oui.
ouais. Il y a la loi qui refuse. Il y a la loi qui refuse. Et surtout, c'est la communauté. Parce que la communauté et la tribu, c'est ce qui est absent.
Ouais.
Hein, de cette loi. Donc, dans notre tribu, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas exister. Une personne gay d'avoir, d'échapoter, ou bien d'être responsable d'une tribu, ou bien d'une institution, ou bien de quoi que au juste. Donc, tu ne peux pas mettre même un commissaire des zones, et même, tu ne peux pas même travailler dans une institution, même dans les quartiers que tu peux avoir, mais peut-être 20 personnes. On ne peut pas vous accepter au Congo.
Alors là,
Tu ne peux pas chapeauter quelque chose, oui.
donc il a fallu que tu fuis le Congo, tu as choisi de quitter le pays et tu t'es allé au pays le plus proche qui était l'Ouganda, c'est ça?
Oui, effectivement. Bon, parce que les plus proches, c'est Burundi et Rwanda. Alors, j'ai vu que ça, là, c'est plus proche. J'ai essayé de quitter là pour venir ici en Ouganda parce que c'est un peu loin, hein, de mon village. Alors, je suis venu ici en Ouganda. Alors, moi, je ne savais pas la politique et la géographie de l'Ouganda.
Oui,
Je
parce
ne
que
savais pas
je dois
vraiment.
dire que l'Ouganda va jusqu'à imposer la peine de mort pour les personnes gays.
Ouais.
Oui.
Ouais, bon, parce que vraiment, dans mon jeunesse et dans mon histoire, je ne comptais pas et je ne savais pas l'Ouganda dans mon histoire. Donc, c'est à cause de fuir mon pays, je suis tombé ici en Ouganda. Mais dans mon histoire, je ne connaissais pas l'Ouganda.
Bon. Donc, tu es arrivé en
Ouais.
Ouganda et là, tu découvres la situation. Comment tu as vécu ça? Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que tu es là. Comment tu vis ça au quotidien d'être d'abord réfugié et d'être aussi une personne gay dans un pays qui a des lois très répressives?
Oui, effectivement, bon, auparavant, jusqu'à présent, ça me fait toujours mal. Parce que quand je suis arrivé en Ouganda, je me suis retrouvé moi seul. Alors, quand je me suis retrouvé moi seul, j'ai essayé de partager avec les autres, des autres réfugiés, de chercher des renseignements. Alors, je ne suis pas trouvé quelque chose qui peut m'appuyer. Par là que je me suis organisé de chercher mes collègues. Quelques collègues et les donner des informations. Comment est-ce que nous allons vivre dans un pays qui est vraiment très homophobe? Est-ce qu'on ne peut pas se réunir de faire une solidarité, une groupe qui peut nous protéger? Bon, ce n'était pas vraiment facile. Les autres ont refusé et les autres ont accepté. Alors, nous avons commencé à faire une petite groupe petit à petit jusqu'à présent que je suis là. Mais ce n'est pas facile parce que J'ai déjà subi beaucoup d'arrestations,
oui,
au moins quatre arrestations.
Quatre arrestations.
Oui.
Quand tu te fais arrêter,
oui, quatre arrestations arbitraires.
Quand tu te fais arrêter, raconte comment ça se passe, une arrestation, parce qu'on découvre que tu es gay.
Oui, première fois, quand je suis arrêté, il dit que c'est nous, les réfugiés, qui viennent avec des mauvaises habitudes, hein, pour entraîner et former nos communautés ici en Ouganda. Donc, ils croient que c'est nous, les réfugiés, qui sont devenus des majorités. Et pourtant, les autres commencent à dire, c'est non, vous copiez les mauvaises habitudes des Blancs pour venir entraîner nos frères ici. Donc, la première fois que je suis arrêté, j'ai fait une semaine dans une cachot. Alors, j'avais eu...
C'est quoi les conditions, Bibi? Ouais, Bibi, je t'arrête. C'est quoi les conditions dans un cachot quand tu es en Ouganda?
Bon, j'étais malmené vraiment, j'étais isolé parce que j'étais malmené et la police, vraiment, ils ont dit le prisonnier qui est vraiment, voyez ces messieurs-là, hein, ne le croyez pas comme il est l'autre, votre frère. Il est réfugié gay, qu'il est venu ici.
Est-ce que tu as subi de la violence de la part des policiers?
Oui.
Ils t'ont battu?
Oui, j'ai été battu et tabassé.
Et ça, c'est pratique courante là, quand on arrête des personnes qui sont gays ou qu'on soupçonne d'être gays.
Ouais.
Par rapport aux autres prisonniers qui étaient dans le pénitencier avec toi, comment ils se comportaient vis-à-vis de toi?
J'ai été isolé. Ils ont refusé même de s'attacher ensemble. Ils ont dit, non, tu restes là-bas, à côté, au coin. Il ne peut pas venir ici à côté de nous.
Est-ce que tu as eu peur à un moment ou à un autre qu'on t'arrête et qu'on te condamne à la peine de mort?
Bon, effectivement, je m'attendais à ça. Bon, heureusement que j'ai reçu vraiment des interventions des organisations des droits de l'homme.
OK.
J'avais eu peur, vraiment, oui. Ouais. J'avais eu peur.
Mais tu as payé des amendes aussi, si je comprends bien.
Bon, non. La première fois, je n'ai pas payé des amendes parce que les organisations des droits de l'homme, notamment Refugee Law Project, Dr. Chris était directeur de Refugee Law Project.
Oui.
Il a envoyé des avocats. Oui, il a envoyé des avocats. Là-bas, beaucoup, les autres des droits de l'homme. La première fois, vraiment, je n'ai rien payé.
D'accord.
Deuxième fois, j'ai payé parce qu'ils sont venus jusqu'à notre bureau.
Oui, et c'est combien d'argent? Je pense que tu fais l'équivalent en dollars US, juste pour nous donner une idée, là.
Oui. La deuxième fois, j'ai payé 1 700 $.
1 700 US, à peu près 2 500 Canadiens. C'est beaucoup d'argent, ça.
Oui.
Mais surtout quand on n'a pas un gros revenu. Malgré tout ça, Bibi, c'est un peu pour ça que j'ai été très... très touché par ton histoire, parce que malgré ta situation précaire, tu as choisi d'agir et tu as fondé un organisme qui s'appelle la Angels Refugee Support Foundation. Alors, c'est quoi cette organisation et qu'est-ce que vous faites?
Bon, notre organisation, nous travaillons sur les trois points. Bon, la première fois, c'est pour la promotion de nos membres. Bon, et deuxièmement, c'est pour la protection de nos membres. Et troisième fois, nous avons des objectifs sur la protection des HIV.
Oui, parce que ça aussi, c'est un problème qui existe ici, mais qui existe en Afrique, et l'accès aux médicaments et aux traitements, c'est assez difficile.
Oui, c'est tout ça. Hein.
Moi, Bibi, aussi, ce qui m'inquiète, c'est comment trouves-tu à financer cet organisme à but non lucratif, ou ONG? Comment tu réussis à financer ça?
Bon, parfois nous avons des bailleurs de fonds qui nous aident un peu d'argent. Parfois, nous avons des partenaires qui nous aident aussi un peu d'argent. Donc, notre organisation n'est pas comme les autres. Parce que jusqu'à présent, à travers la loi qui est tombée ici en Ouganda, il y a des organisations de réfugiés, il y a des organisations aussi internationales comme nationales, ne peuvent pas nous soutenir. Ils refusent de nous soutenir à propos de la loi de l'Ouganda.
Ouais.
Donc, nous vivons dans une situation vraiment très préoccupante parce que nous n'avons pas de fonds qui est suffisant. Donc, nous pouvons avoir un fonds peut-être de 10 000 $ et le fonds de 10 000 $ ne peut pas suffire à peu près de 120 000 et 120 personnes, peut-être 80 personnes, parce que notre organisation, vraiment, pour le moment, nous sommes à 140 personnes.
Ouais. 140 personnes, c'est quand même beaucoup, là.
Oui, Oui, 140 personnes. Alors, pour le moment, comme aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de financement, nous avons reçu 10 000 dollars. Et dites-moi comment payer les bureaux, comment les payer les salariés, comment faire les activités sur les précautions des HIV, bon, sur la protection. Donc, ce n'est pas vraiment tout à fait suffisant pour nous, parce que nous souffrons vraiment, parce que beaucoup des organisations, beaucoup de partenaires ignorent les organisations des réfugiés, notamment nous. Pour le moment, vraiment, nous sommes en dessous. Donc, nous retrouvons petit à petit, ce n'est pas beaucoup, mais petit à petit.
Ouais.
Tu peux avoir, oui, 5 000 dollars, 10 000 dollars, mais ce n'est pas suffisant.
Je vais retourner à ta situation, Bibé. Tu as entamé des démarches de réinstallation, notamment vers le Canada, mais tout ça semble coincé là parce qu'on est dans les méandres administratives depuis des années. Comment tu fais là-dedans là?
Bon, j'entends tout simplement la réaction. Peut-être ils vont m'appeler, mais pour le moment, je suis tellement désolé, hein, parce que si je peux avoir quelqu'un qui peut m'aider, ou bien qui peut m'orienter, ou bien peut-être qui peut m'inviter de quitter ce petit pays, vraiment, ça m'a fait plaisir. Parce que je suis vraiment désolé de vivre ici. Parce que quand j'ai essayé de parler, de faire des interviews au Canada, tout ça, j'attendais vraiment un espoir pour moi. Malheureusement, rien comme positif.
Oui, il faut dire que le Canada s'est beaucoup refermé au niveau des réfugiés et des demandeurs d'asile et de l'immigration. C'est les choses dans lesquelles on vit présentement. Mais toi, comment tu te sens dans tout ça?
Oui, je me sens très mal parce que j'ai essayé même d'écrire au Rainbow. Je n'ai pas eu
Oh,
même les
le
résultats
Rainbow
favorables.
Coalition là, qui aide les réfugiés queer à sortir et à venir au Canada, c'est ça?
Ouais,
Oui.
ouais, ouais. J'ai essayé de les écrire, mais jusqu'à présent, peut-être personne ne peut me connecter avec eux d'une manière ou d'une autre.
Ouais. T'es déprimé, mais
Oh.
comment tu vas? Chaque matin que tu te lèves?
Oui, chaque matin je me lève, bon, j'ai prié mon Dieu de me protéger à cette situation qui sont ici et de prier mon bon Dieu de m'orienter dans un pays vraiment que je serai au moins, je serai peut-être valorisé, hein, de ne pas avoir la peur du matin du soir.
Ouais. Ben écoute, on va beaucoup, beaucoup penser à toi. Tiens-nous au courant de ce qui se passe dans ta vie, puis on va essayer de revenir vers toi pour savoir comment tu te débrouilles dans tout ça. Merci beaucoup, Bibé Kalalou, d'avoir participé à l'émission aujourd'hui.
Ok, merci beaucoup, merci
Merci.
beaucoup, bonjour, Denis. Je suis très vraiment content de parler avec toi.
Ouais.
Peut-être
Oh.
un jour, je peux échanger avec Laurent.
Ouais.
Voici parce que
Qui s'en vient. Oui, ben oui,
j'ai.
tu es en train
Oui.
d'annoncer. Oui, on s'en va à la pause, puis tu es en train d'annoncer mon prochain invité, qui est Laurent Francis Mégoumou, qui est docteur en travail social, un expert sur les questions des réfugiés. Donc, il va nous parler et de la situation de Bibé et aussi d'autres personnes, hein, qui essaient de venir au Canada. On fait ça après la pause.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité.
Mais on continue sur la question des demandeurs d'asile queer. Laurent Francis Ngoumou, docteur en travail social, est un chercheur expert sur les questions des réfugiés queer. Il est bien au fait des situations comme celle de Bibé Kalalou. Laurent, merci d'être avec nous pour nous éclairer un peu sur ces enjeux complexes qui touchent autant le terrain au pays que sur la scène internationale. Merci d'être là, Laurent.
Merci, Denise Martin, de m'avoir invité. Et je dis bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. Et je suis content de venir à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci beaucoup.
Mais oui, t'es quand même un régulier. On aime bien t'inviter parce que tu as des connaissances qui nous aident beaucoup. Laurent, une fois arrivé sur le sol canadien, depuis, quels sont les deux plus grands obstacles systémiques auxquels les demandeurs d'asile queer font face immédiatement, alors, quand ils arrivent ici?
Oui, en tenant compte de mes recherches, en tenant compte de mes travaux, mes enquêtes sur le terrain, notamment le rapport de recherche que j'ai rédigé en 2021, en février 2022, avec Okassi et Franco Cue à Toronto, qui s'intitulait Guide de conseil des pratiques et des techniques d'intervention pour le bien-être en santé mentale des personnes noires, LGBTQ, francophones, d'origine africaine et caribéenne. Dans ce rapport-là, en tenant compte au fait aussi du rapport que j'ai publié avec mon collègue chercheur au fait aussi en 2024, favoriser le bien-être et l'intégration sociale des communautés racisées francophones LGBTQ à Toronto, à Ottawa, en tenant compte du rapport au fait aussi que j'ai été comme collaborateur sur les sujets de SLGBTQ+ au sein des communautés noires d'expression française, publiée en octobre 2024, et aussi en tenant compte, enfin, de ma thèse de doctorat publiée en décembre 2025, et aussi en tenant compte, au fait, l'article que j'ai publié dernièrement, l'article que j'ai publié à l'Université d'Ottawa, notamment dans leur publication intitulée Les voix amplifiées, où je reviens sur mes recherches, au fait. Il en ressort que les demandeurs d'asile peuvent faire face à plusieurs obstacles systémiques. Parmi les deux principaux, tels que vous posez comme la question, l'accès aux services de santé et de soutien psychologique, au fait. Voyez-vous donc ici, un exemple, je dirais que si une personne demandeur d'asile arrive dans un centre communautaire ou dans un centre où normalement on reçoit les demandeurs d'asile et qu'elle est reçue, elle est mal reçue, elle va se crisper et ça va créer un stress en elle et ça va créer de l'isolement, dont la première barrière, c'est que les services offerts ne sont pas adaptés à ces personnes-là. Il manque des professionnels, bien que certains disent des professionnels, mais il manque, je pourrais dire, à 80% des experts et des professionnels pour travailler avec ces personnes. Et maintenant, pour ceux qui sont dans le Canada anglophone, beaucoup d'intervenants ne parlent pas, ne s'expriment pas en langue française, il faut le dire, pour ceux qui sont francophones. Et comme deuxième point de la discrimination, la stigmatisation de la personne durant le processus d'immigration, il faut dire ici que pour ceux qui sont venus par l'aéroport, et aussi ceux qui sont ancrés par les chemins Roxane, le processus est long, le processus d'asile est long durant cette période-là, et le processus est, comment dire, écruffé de racisme et des biais qui rejettent, qui déshumanisent la personne, en fait. Parce qu'il faut aussi dire, il y a des cas de demandeurs d'asile qui arrivent, qui ont déjà leur asile depuis le HCR dans les pays tiers, en lien avec la Convention de Genève de 50, de 50 de 57 et sont.
Je dois intervenir parce que je veux qu'on avance, qu'il y a des choses importantes à dire dans tout ça. On sait que souvent, la personne qui arrive ici dans un statut de demandeur d'asile, elle arrive avec un traumatisme, traumatisme de parcours, traumatisme de ce qu'ils ont vécu, l'isolement social. Est-ce qu'on est assez équipé pour recevoir ces personnes-là d'une façon intelligente?
La question que vous posez, la question elle est importante sur le plan didactique, ça permet d'enseigner la personne. Donc, pour revenir à la question, la personne qui arrive, qui a été stigmatisée dans son pays d'origine, qui porte un parcours pré-migratoire, peut-être a fait du travail des sexes pendant son parcours pré-migratoire, qui a été discriminée lorsqu'elle arrive ici. C'est bien beau, il y a certains spécialistes, mais il y a un manque de spécialistes pour ces cas particuliers, parce que il y a un manque de spécialistes pour comprendre ces cas particuliers. Généralement, les organismes aujourd'hui font des formations en ligne, mais ce sont pas des spécialistes au fait.
Oui.
Des gens ont des certificats, mais ils ne peuvent pas remplacer des vrais spécialistes au fait.
D'accord. Juste avant d'aller au prochain point, il y a aussi le système de détermination, à savoir qui est réfugié, qui ne l'est pas, et sur la base de l'orientation sexuelle, le processus fonctionne pas toujours pour déterminer la crédibilité là, de la personne qui fait cette demande-là. Et souvent, Parce qu'on sait que les personnes qui viennent de certains milieux où c'est très réprimé d'être queer, bien évidemment, ça va être plus difficile quand il arrive devant un tribunal ou une audience d'une commission de parler de sa vie.
Oui, effectivement, c'est dans le processus. On verra par exemple que le 9 mars, le journal La Presse canadienne publiait que, selon la commission sur l'immigration, la commission sur l'immigration et statut du réfugié disait qu'au moins 35 000 personnes demandeurs d'asile ont été acceptées sans audience en personne depuis 2019 au Canada. Ça veut dire que des personnes, les personnes ont écrit des textes disant qu'ils sont persécutés dans leur pays d'origine à cause de leur orientation sexuelle et à cause de leur identité de genre, mais parce qu'ils connaissent déjà le processus, alors que dans mes enquêtes, je me suis rendu compte que certains n'étaient réellement pas homosexuels, au fait, mais ils ont obtenu l'asile parce qu'ils savent comment, quels sont les arguments, qu'est-ce qu'ils sont.
Comment le dire, comment le faire, mais ça nuit aux personnes qui sont vraiment en statut de demande de réfugiés en vertu de leur orientation sexuelle ou identité de genre.
Oui, de plus en plus, on assiste à ce que j'appelle dans mes travaux de recherche et dans ma thèse de doctorat et aussi dans mes travaux, ce que j'appelle la désacralisation du droit d'asile. De plus en plus, ici, je veux parler, par exemple, de mes recherches de terrain, de trois cas que j'ai connus dernièrement. J'ai interviewé un Nigérien et trois Sénégalais. Et je leur ai posé la question que depuis quand ils sont arrivés au Canada, il y a les Sénégalais, me disaient, qui sont arrivés en 2023, l'autre me disait en 2024. Et par contre, le Nigérien me dit qu'il est arrivé en 2024. Et je lui ai posé la question de savoir comment est-ce que, en tant que chercheur, comment est-ce que, sur quelle base vous demandez l'asile au Canada? Ils me disent, les quatre, ils me disent qu'ils demandent l'asile en tant que personne homosexuelle. Je leur pose la question, est-ce que vous êtes des personnes homosexuelles? Ils me disent ouvertement que non, ils ne sont pas homosexuels, mais on leur a conseillé de demander l'asile en tant qu'homosexuels.
Ah, mais il y a vraiment des problèmes, hein?
Ah oui, et cela soulève un autre problème. En tant que chercheur, je me rends compte que les personnes afro-cueurs, qui sont en Afrique, ne peuvent pas voyager parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais les gens qui voyagent, qui arrivent au Canada, tels que les étudiants internationaux, tels que les visiteurs, ça veut dire qu'ils ont des moyens. Ce sont des personnes qui ont des moyens, mais qui viennent demander l'asile, au fait. On a, par exemple, jusqu'en février 2025, là, on rapportait 1325 étudiants internationaux. Et entre-temps, sans compter qu'en 2023, depuis 2022, 2023, 2024, 2025, beaucoup d'étudiants internationaux, on a plus de 23 000, ont obtenu l'asile au Canada. Ils sont venus en tant qu'étudiants et ils ont demandé l'asile, au fait. Et bizarre, ce qui est bizarre, c'est que dans mes enquêtes de terrain, en tant que chercheur, je remarque que certains ont eu de l'asile, mais ils vivent une vie hétérosexuelle, au fait.
Ouais.
Et on se
Et
retrouve avec des
ça, ça nuit à
personnes.
des gens comme on a entendu un peu plus tôt à l'émission, Bibi Kalalou, qui lui est réellement une personne queer qui cherche à venir au Canada, puis il arrive pas à venir ici. C'est
Exactement.
cause des problèmes. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on parle quand même d'une situation qui est très importante. Le Sénégal. Le Sénégal vient de voter une loi doublant les peines de prison pour homosexualité. Ça peut aller jusqu'à 10 ans de réclusion. C'est quoi ton analyse que tu as fait, Laurent, de cette situation-là?
Mon analyse que j'ai fait de cette situation-là, c'est que on vit dans une hypocrisie, au fait. On vit dans une société où il y a beaucoup d'hypocrisie. On sait bien que dans mes travaux de doctorat, mes travaux de recherche, au fait aussi, en études comparatives, mes travaux de doctorat montrent effectivement que les personnes homosexuelles ont toujours vécu au Sénégal, bien avant l'esclavage, bien avant la colonisation. Donc, c'est qu'on appelle les Gorzigen. Les Gorzigen ne sont pas nés en 2026 au Sénégal. Mais le problème, c'est que la société vit dans le déni. Dans le déni. Et je citerai par exemple, au fait aussi, le lauréat du prix Goncourt 2021, avec son roman Des purs hommes, Mohamed Boukhar Sarr, qui a gagné le prix Goncourt en 2021, avec son roman publié en 2018, Des purs hommes. ou dans ce roman, qui est sénégalais en fait aussi, qui démontre que au Sénégal, dans ce roman, il raconte l'histoire d'un homme qui est mort et qu'on a enterré dans un cimetière. Et parce que on a raconté que cet homme était homosexuel, les gens de la commune ont exigé qu'on déterre le corps de cette personne homosexuelle de ce cimetière. Et dans ce roman, de roman qui a gagné un grand prix de littérature internationale, l'auteur sénégalais démontre qu'en effet, les personnes homosexuelles ont toujours vécu au Sénégal, existent, ils sont inhérentes à la société sénégalaise. Cela revient à ce que, par exemple, en 2022, non pas en 2022, parce qu'il faut bien, lire les dates, il faut bien, je donne des dates là, parce que voyez-vous que dernièrement, le Premier ministre Sonko actuel, il a reçu Jean-Luc Mélenchon, et il a dit à Jean-Luc Mélenchon que, effectivement, les Gordiguen existent au Sénégal. Les Gordiguen, ça veut dire des hommes qui s'habillent en femmes et qui sortent avec d'autres hommes, en fait. Et il lui disait à Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme politicien français, il lui disait effectivement que on accepte les Gordiguen du moment ils font leur sexualité dans le noir, qu'ils sont dans le placard. Là, on les accepte, au fait. Mais qui n'accepterait pas que qu'on fasse des prides au Sénégal, qu'on apporte la manière de penser de l'homosexualité occidentale au Sénégal? Et aujourd'hui, on a ce même Premier ministre qui a proclamé l'autre jour ces lois qui criminalisent les personnes LGBTQ au Sénégal.
Laurent, Francis Ndengoumou, on pourrait en parler en long et en large, mais encore une fois, on te réinvite assez régulièrement à l'émission, fait qu'on va certainement en reparler. Merci beaucoup pour tes lumières. C'était très
Merci
important.
beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Bonne
Merci.
journée.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue.
Alors, pour terminer cet épisode de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, et j'avoue que c'était un épisode qui avait des nouvelles un peu dures à prendre, je me dis, on va se faire plaisir. Je vais me faire plaisir. Je reçois donc une comédienne dont le talent et la sensibilité illuminent nos écrans et nos scènes depuis près de 20 ans. Quand même!
Hey, ça va vite, hein?
Me semble que t'es pas si vieille que ça!
Ah, ben, 43!
43, Cynthia Gomaheu. On est
Allô?
Vraiment contents. Nous, on se connaît. Mais en fait, on s'est connus dans des premières et des lancements, puis je n'osais pas aller t'importuner. Parce que je me disais, ah, pauvre, tu sais, les artistes, là, vous faites importuner par tout le monde.
Ben moi, ça me fait plaisir tout
Mais
le temps.
J'avoue, je te l'ai dit, j'aimais ton travail. Puis finalement, c'était un ami commun qui nous a présenté. Puis moi, c'était un coup de foudre, Cynthia. Un coup de foudre d'amitié. Et puis là, j'ai dit, j'aimerais ça t'interviewer. C'est resté là parce que tu es une personne occupée, puis on comprend ça. Puis il y a une semaine, elle me dit, ben là, j'ai du temps. Ben, je dis, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors, je vous présente Cynthia Gomaheu,
bonjour,
qui est diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2007. Elle a su naviguer avec brio entre le théâtre classique, les séries dramatiques marquantes comme District 31 et le cinéma d'auteur. Elle est originaire de Trois-Rivières. Alors, je suis là pour te dire, tu es vraiment une Québécoise pure,
ah ben
pure
oui.
sirop d'érable.
Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Mais je suis née sur le territoire aussi.
Ben oui,
t'sais.
Ben oui.
C'est ma famille qui a immigré, mais moi, je suis née ici, là, fait que je suis vraiment...
Puis je trouve ça important de le dire parce que on parle souvent des personnes qui sont issues de la diversité
oui.
culturelle, puis c'est comme eux autres, ben non, t'es chez nous.
Ben c'est ça. Moi, je suis comme dans la catégorie qui peut dire « je » sur tous les côtés.
J'adore. Alors donc, je l'ai dit, t'as grandi à Trois-Rivières, où ta famille maternelle d'origine chinoise a
oui.
tenu le restaurant Les Rivières Orientales. J'ai lu plein d'affaires. J'ai pas le temps d'aller jusque-là. Il paraît que t'étais tannante quand t'étais petite, mais...
Je pense que j'étais coquine.
T'es coquine, hein?
J'ai
ouais.
croisé justement quelqu'un dans un lancement qui a fait « Ben moi, j'y étais, puis je me souviens de toi quand t'étais tout petite.
Ouais. »
Puis t'arrivais à la hauteur de la table, tu regardais les clients, puis tu faisais « Puis toi, tu t'appelles comment? » Puis là, je courais un peu partout. Puis là, quand la porte extérieure s'ouvrait, ils entendaient juste mon nom, « Cynthia! » Puis là, je recourais tout vers l'arrière pour être sûr que je sorte pas dehors.
Ouais.
Fait que là, je courais partout, puis je disais des bonjours. Puis après ça, mon grand-père m'amenait, puis il m'amenait ailleurs.
Bon, là, t'es plus tout petite, parce que t'es quand même une
un
grande
petit 5
mère.
Et 9.
Ah, quand même, ben, c'est correct. Fait que t'as pas trop de travail à faire pour aller sur les étagères du
Non,
audio.
Ça va.
De quelle façon ce bagage familial et ton ancrage trifluvien, ça t'a aidé à forger ta vision de la diversité culturelle dans le milieu artistique québécois?
Mais moi, en fait, je suis comme née dans l'ONU. Fait qu'il y a quelque chose que le concept de l'unité dans la diversité, c'était déjà... ça faisait partie de mon quotidien. Ne serait-ce qu'au restaurant, tous les waiters ou waitresses, il y avait beaucoup de Québécois. Puis un de mes mononcles, que je peux dire, j'avais beaucoup de mononcles, ma tante non biologique, on s'entend, oui. Qui venaient. Il y avait des quartiers un peu plus pauvres qu'on appelait le Rochon à Trois-Rivières. Puis ils savaient que ça se promenait. Puis ils disaient, bien, le Chinois, il donne des jobs si tu as envie de travailler. Fait qu'il y avait beaucoup de ces gens-là, bien, des gens qui venaient pour demander des emplois. Puis mon grand-père ouvrait de faire, si tu veux travailler, tu vas travailler. Fait qu'il trouvait des places. Fait que, tu sais, ça aidait aussi la reconstruction de la noblesse humaine, tu sais, au-delà des classes sociales, au-delà des genres, au-delà de tout, tu sais, de l'essence humaine. Puis on faisait des grandes, grandes fêtes pour le Nouvel An chinois. Puis mon grand-père faisait à manger pour tout le monde. Puis il y avait tous les employés avec leur famille. Il y avait des clients réguliers qui venaient. Il y avait la famille aussi chinoise qui venait de... soit de l'autre extrême de Toronto, puis l'autre, c'est Calgary, Vancouver. Ils venaient au restaurant, fait qu'on fêtait. Il y avait vraiment une immense diversité. Puis, tu sais, un de mes mononcles qui m'appelle encore son bébé, tu sais, il s'appelle Tai. Il y avait le restaurant aussi, le Menuet Oriental, qui est fermé sous peu, récemment. Puis c'est ça, lui, il était de la communauté LGBTQ+, plus le, j'ai dit les bonnes lettres.
Ah, oh, LGBTQ+, ça va, on peut dire queer aussi, queer. Ben, ça aide beaucoup aussi.
OK. Ouais. Puis vietnamien, puis en même temps, j'étais son bébé. Puis encore aujourd'hui, il m'appelle son bébé.
Fait que Cynthia, t'as grandi dans la potion magique, t'es tombée dedans.
Ah oui, vraiment, absolument. Fait que moi, les gens, c'est des humains, puis on se rencontre avec ce qui nous unit et non ce qui nous désunit. Tu sais, quand on est ensemble, on vit notre quotidien, le restaurant, on a des roches, on a des crises et victoires. Puis quand on est ensemble, bien, on s'échange sur, généralement... la joie d'être ensemble dans ce qui nous unit.
Ça fait du bien.
Ouais.
Considères-tu que ton parcours a contribué à ouvrir des portes ou à modifier des perceptions sur la représentativité à la télévision et au théâtre? Là, je fais bien attention. Moi, je ne suis pas dans le faire-valoir.
Ah, il n'y a vraiment aucun souci. Oui, oui, on se questionne, on réfléchit ensemble. Sur le coup, je ne pensais pas parce que c'est comme si à l'âge de 8 ans, depuis que j'ai 8 ans, je fais comme 2 productions théâtrales par année. Il y avait le Carré Théâtre à Longueuil, qui était des professionnels qui enseignaient aux enfants et autres, puis au secondaire, où je faisais du théâtre aussi, puis je faisais de l'art plastique, tu sais, je baignais dans l'art. Mais c'est comme si, à 8 ans, j'ai touché à ça, puis j'ai fait « Ah, je comprends la matière ». Puis là, j'ai regardé ma mère dans les yeux, puis j'ai fait « Je vais être comédienne plus tard ».
Ah oui.
Puis là, elle savait que quand je prenais une décision comme ça, ça allait être ça. Fait que j'ai avancé là-dedans, petit pas par petit pas, sans trop comprendre que j'étais en train de frayer un chemin. C'est récemment, c'est des gens avec qui j'ai enseigné ensuite le théâtre. Puis il y avait une jeune asiatique aussi qui était adoptée, elle, puis qui est venue me voir, puis qui a fait, ben c'est parce que je t'ai vu à la télé que je me suis dit que j'avais le droit de faire ça comme métier.
Fait que des jeunes personnes qui te ressemblent maintenant, c'est-à-dire, je peux faire ça.
Oui, c'est ça. Puis moi, je suis mélangée, j'ai beaucoup de Québécois, puis en même temps, j'ai joué sa mère.
Ouais.
Mais le paysage, moi, je le porte parce que j'ai grandi dans la culture aussi, tu sais. Puis des fois, ben c'est des gens qui sont issus de la diversité culturelle, mais qui ont été adoptés. Fait que des fois, qui manquent des... qui portent le bagage, puis qui portent le paysage, mais qui n'ont pas tous les codes, tous les outils aussi frais, tu sais, fait qu'ils sont en quête de renouer avec ça. Puis c'est ça, puis même des jeunes immigrantes, des familles d'immigrantes qui disaient que leur mère leur prenait par la main, les amenait devant la télé, puis me pointait.
Ah oui?
Hey, c'est touchant, là.
C'est vrai. Bien, t'as incarné beaucoup de rôles, dont je pense à Lisanne présentement dans Mea Culpa.
Oui.
Je pense à Daxia dans District 31. Megan dans Classé Secret, c'était des femmes de la diversité sexuelle, on pourrait dire des femmes queer.
Oui.
Et là, je peux-tu te faire ton coming out? T'es une alliée.
Non, j'ai une alliée, c'est ça.
T'es le A dans le LGBTQIA+.
C'est ça, mais je suis c'est ça, le classique, ben pas un classique, mais je suis de la diversité hétérosexuelle.
C'est parfait. Mais donc, tu as accepté de prendre ces rôles-là et que tu as joué sans stéréotype. Oui. Comment t'as approché ça?
Ben j'ai essayé de prendre ça comme tous les personnages que je prends. T'sais, de, moi, je descends pour essayer de, d'aller à la rencontre de l'humain, puis de faire ben, les êtres humains qu'on soit dans une diversité ou dans peu importe la diversité. Quand on est dans le cœur de notre vie, on n'est pas toujours en train de penser en ça. Des fois, on est en train de survivre, en train. Puis ben, le texte aussi me donne des ancrages pour voir. C'est quoi le rythme du personnage? Où sont les virgules? Est-ce qu'il y a des trois petits points? Donc, ouais. Est-ce qu'elle est hésitante? Est-ce qu'elle est... c'est quoi les enjeux aussi, les relations qu'elle a avec les êtres autour d'elle? Puis c'est quoi aussi, dans la série, qu'est-ce que ce personnage-là aussi vient apporter en tant que de retournement d'enjeu? Puis j'étudie beaucoup la psychologie. J'ai fait beaucoup de thérapie avec la PRI, Past Reality Integration. Mm-hmm. C'est une femme des Pays-Bas. Puis ça fait comprendre aussi les mécanismes de défense. Donc, j'ai été aussi en moi pour voir c'est quoi mes limitations. Qui de moi est en train de parler? Est-ce que c'est ma souffrance qui parle? Est-ce que c'est ma colère? Ou si c'est mon cœur? Qu'est-ce qui est au moteur? Puis de tout de suite me ramener toujours dans le cœur pour prendre les bonnes décisions, puis les bonnes recherches, puis aller à la rencontre de cet humain-là qui aussi a ses colères, ses blessures, son amour, puis où est son âme? Puis de faire, OK, ben maintenant... je descends dans ses mécanismes de défense. Je descends aussi dans ses souffrances, dans ses lumières. Puis de faire, OK, ben là, je te prête mon corps pour que tu puisses parler.
Alors, on y croit à ces personnages-là que tu as joués.
Je suis vraiment heureuse.
Puis surtout, c'est pas des personnages faciles. Lisanne, elle a des squelettes dans le placard, là. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on présente des personnes de la diversité, mais pas toujours, elles ne sont pas toutes bonnes et gentilles. Elles ont leurs défauts.
Ils sont humains.
Oui.
On est humains, on navigue ensemble, puis on essaye, puis ben on est des fois en capacité de s'entraider. Puis des fois, ben ça fait que nos souffrances, justement, Lisanne, on le voit, tu sais, c'est sa souffrance puis sa colère qui parle en premier. Puis ça devient comme un raz-de-marée aussi, autant pour les gens autour d'elle que pour elle-même, parce qu'elle tombe dans l'autodestruction aussi de l'alcoolisme.
Ben oui.
Puis de trouver des moyens pour essayer de geler sa souffrance au lieu d'aller l'accueillir puis de la laisser sortir.
J'aimerais t'amener sur un débat quand même qui existe, et puis je pense que c'est important de le nommer, sur l'idée que les rôles queer devraient être réservés exclusivement à des comédiens issus de la diversité sexuelle et de genre. Comment tu réagis à ça? Parce que tu as pris des rôles queer et tu n'es pas une personne de la diversité sexuelle et de genre.
Oui, en effet. Je pense que on est rendu à une ère où est-ce que l'humanité est appelée à s'approcher d'une maturité dans sa réflexion. Puis je pense que la maturité fait que, mettons, le niveau d'enfant, on fait c'est bien ou c'est mal, c'est gentil, c'est noir, c'est blanc, oui ou non. T'sais. Puis je pense que tranquillement, on voit que il y a beaucoup de zones grises, puis c'est très complexe. Il y a à la fois, je pense, un naturalisme de certains projets qui, oui, va nécessiter, évidemment, parce qu'on va vraiment parler d'enjeux, on va parler d'une sensibilité, puis je pense qu'il y a... Mais après, il y a de l'autre côté aussi que certaines œuvres demandent une technicalité très grande, et autant dans l'enjeu artistique que dans les codes, que dans la complexité aussi de l'ouvrage. Il reste que je suis quand même quelqu'un qui cherche l'humain depuis que je suis née, qui développe mes compréhensions, qui je suis proche des gens LGBTQ aussi, du centre communautaire. Puis j'ai été baignée dans cette diversité-là. Puis ça fait aussi, comme je disais, depuis que j'ai 8 ans, je fais 2 productions théâtrales par année. Ça va faire 20 ans. J'ai une expertise qui fait aussi qu'il y a certains projets où est-ce que je suis en capacité d'amener le personnage, d'amener l'enjeu, puis d'être justement l'allié qui va faire rayonner quelque chose.
Que pendant longtemps, des personnes gays ou lesbiennes ont joué des rôles hétérosexuels.
Bien sûr. C'est vrai. Puis au même temps, tu sais, des fois, là, je suis chinoise, mais là, j'ai joué récemment une japonaise. C'est le même.
Oui, c'est vrai.
C'est le même enjeu. Mais après, la complexité de ce que ça demandait, cette pièce-là, il fallait quelqu'un qui soit over béton pour être en capacité de rentrer, de comprendre la création, proposer.
Est-ce que tu as senti la pression de faire ces rôles-là en sachant que, ben là, il y a une gang qui vont me regarder puis qui vont.
Ah oui, bien sûr. Hein. Ah oui. Puis donc, c'est sûr qu'il y a pour moi, dans tout ce que je fais, une révérence immense. Puis je vais rencontrer des gens, j'approfondis, puis je fais des recherches, puis je veux dire, je ne vais pas juste apprendre mes lignes. Je vais vraiment, dans la révérence de l'humain que je vais faire vibrer. Tu sais.
Dans un monde difficile dans lequel on est, il me reste quelques minutes, oui. Dans le monde difficile dans lequel on est présentement, vis-à-vis de toutes les diversités, oui. Parce que, dont tu fais partie de toute façon, oui. Malgré tout.
Bien sûr.
Trouves-tu que les artistes ont un rôle à jouer pour combattre cette incompréhension, cette haine? Ça fait-tu partie de votre job, ça?
Bien, c'est sûr que l'art, en tant que tel, a toujours été un moteur de réflexion, un moteur qui met en lumière des systèmes un peu corrompus ou des systèmes qui fonctionnent moins. On n'est pas là pour amener toutes les solutions, mais on est là pour ouvrir des débats, pour conscientiser, pour parler justement au nom des gens qu'on n'entend pas puis qui ont besoin d'être entendus. Ouais. Une grande actrice m'avait dit ça, tu sais, à un moment donné, j'étais stressée avant d'aller jouer. Puis elle a fait, tu sais, toi en ce moment, tu parles pour toutes ces Julie qui existent, mais que personne connaît.
Ouais.
J'ai fait, ouais. Puis le travail, tout le travail de création puis de peaufinage pour amener ce personnage-là à un niveau d'humanité, bien, ça, une fois que moi, j'ai fait ce travail-là en arrière, il y a cette connexion-là. Mais l'humain, en ce moment, doit aller retourner à son cœur.
Hey, on va devoir arrêter ici. J'en arrêterai encore pour une demi-heure.
Ça va vite. Merci beaucoup de l'invitation.
Et c'était donc le 134e épisode de L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci à nos invités, Tanguy Edrich, Bibi Kalalou et Laurent-Francis Ngomou. Évidemment, Cynthia Woumaheu, merci à Mathieu Tessier à la régie. Merci à Godéric Trobe à la recherche pour nous rejoindre, aller sur nos réseaux sociaux, dont le mien, à DM Chabot, auteur sur Facebook et Instagram. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci tout le monde d'avoir été là. À la semaine prochaine. Thank you.